Radio Prague, les informations.
Václav Klaus a reçu le chef des sociaux-démocrates et celui des chrétiens-démocrates pour chercher une issue à la crise gouvernementale. Réunion informelle des chefs de la diplomatie de l'Union européenne à Hluboká. La Chambre des députés a donné son feu vert au dédommagement des Tchèques de Russie subcarpatique. Le président de la République, Václav Klaus, a reçu au château de Prague le chef des chrétiens-démocrates Jiří Čunek, mais également celui de l'opposition social-démocrate Jiří Paroubek, pour discuter des issues à l'actuelle crise gouvernementale après la démission du cabinet. Selon Jiří Paroubek, le principal dans la situation actuelle est de faire adopter une loi sur la dissolution de la Chambre des députés pour que les élections législatives anticipées puissent être organisées d'ici la fin octobre. Václav Klaus ne veut pas que le cabinet démissionnaire dirige le pays trop longtemps, que ce soit jusqu'à la fin de la présidence tchèque de l'Union européenne ou jusqu'à des élections anticipées. Il a également précisé que le nouveau gouvernement devrait être le résultat d'un accord politique au Parlement et que celui qui serait trouvé sans une voix serait chargé de former un gouvernement. À partir de ce vendredi, le château de Hluboká en Bohême du Sud accueille pour 2 jours les chefs de la diplomatie de tous les pays de l'Union européenne. Cette réunion informelle se déroule dans le cadre de la présidence tchèque de l'Union européenne. Au programme des discussions, le Proche-Orient et les Balkans, le partenariat oriental et l'élargissement de l'Union européenne. Selon Benita Ferrer-Waldner, il est encore trop tôt pour décider de l'invitation du président biélorusse Alexandre Loukachenko au sommet de l'Union sur le partenariat oriental qui aura lieu en mai prochain. Plusieurs participants à la réunion se sont prononcés pour un plus grand engagement de l'Union européenne en Afghanistan, sinistré par des violences. Selon le ministre des missionnaires des Affaires étrangères, Karl Schwarzenberg, qui préside la réunion, les déclarations de Mirek Topolánek sur la solution américaine de la crise financière faisaient partie d'un débat européen interne et n'était pas orienté contre les États-Unis. Les citoyens tchèques de Russie subcarpatique qui faisaient partie de la Tchécoslovaquie entre 1918 et 1919 devraient être dédommagés de leurs biens qu'ils étaient obligés de laisser sur ce territoire. Le projet de loi sur les dédommagements a reçu l'aval de la Chambre basse du Parlement. On s'attend à ce que la demande de dédommagement puisse être présentée par plus de 400 personnes. La société Hitachi Home Electronics, producteur d'écrans plasma, fermera d'ici la fin du mois de mars la production dans la zone industrielle Triangle près de la ville de Jatets. Tous les 800 employés de l'usine seront licenciés. Un ciel couvert, des averses locales et des températures oscillant entre 9 et 13 degrés marqueront la météo de samedi, jour de fête des Soniens. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jaka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne au château de Hluboká en Bohême du Sud. Le philosophe tchèque, ancien dissident, ancien signataire de la charte 77, Jan Sokol, a été décoré de la Légion d'honneur. Reportage sur le récent concert à Prague du groupe français L'Herbe Folle. Voilà les sujets que nous vous présenterons au cours de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque, préparé par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. La série de réunions informelles des ministres des pays de l'Union européenne se poursuit les 27 à 28 mars par celle des chefs de la diplomatie, les ministres qui se proposent de discuter d'une manière détaillée et informelle de certains sujets actuels et épineux, se sont réunis dans un château situé près de la ville de České Budějovice en Bohême du Sud. Parmi les journalistes qui suivent de près cet événement, il y a notre envoyé spécial Alexis Rosenzweig. Nous l'avons contacté un peu avant le début de cette réunion.
C'est donc ce vendredi et ce samedi que se déroule cette réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Une réunion qu'on appelle dans le jargon européen le Gymnich. C'était Gymnich, le nom du château allemand dans lequel s'est déroulée pour la première fois cette réunion. C'était en 1974. Cette année, pour la petite histoire, le château de Hluboká nad Vltavou, dans lequel se déroule cette réunion, le joli château de Hluboká, était la propriété de la famille Schwarzenberg, la famille Schwarzenberg à laquelle appartient l'actuel ministre tchèque des Affaires étrangères. Alors, au menu de cette réunion informelle, plusieurs dossiers importants, l'Afghanistan, la situation au Proche-Orient, et puis les Balkans, puisque la présidence tchèque de l'Union européenne avait décidé de faire des Balkans une de ses priorités. Il y aura les ministres des Affaires étrangères des pays des Balkans représentés à cette réunion. Il y aura également le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union, Javier Solana, et puis deux commissaires européens, Benita Ferrero-Waldner, commissaire aux Affaires étrangères, et Monsieur Rehn, commissaire à l'élargissement. Il sera également question de la Biélorussie en préparation du prochain sommet du 7 mai à Prague consacré au partenariat oriental que l'Union souhaite faire avec 6 pays situés à l'est de l'Union européenne, et la Biélorussie fait partie de ces 6 pays. Alors, vous le savez, cette réunion intervient dans un contexte particulier pour la présidence tchèque de l'Union européenne, puisque le gouvernement de Mirek Topolánek vient de démissionner. C'est donc un ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, qui va présider cette réunion. Mais la présidence tchèque doit continuer son travail, et du travail, il y en a. C'est le moins qu'on puisse dire, avec la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, le G20, le sommet du G20 à Londres. Et puis, surtout, à Prague, une échéance importante avec le sommet entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce sera le 5 avril en présence du président américain Barack Obama. Alexis Rosenzweig à Hluboká nad Vltavou pour Radio Prague.
Le philosophe tchèque, ancien dissident, ancien signataire de la charte 77, Jan Sokol, a été décoré de la Légion d'honneur francophone francophile. Il a entretenu des liens étroits avec les cercles philosophiques français et traduit de nombreux ouvrages. Il est revenu au micro d'Anna Kubishta sur les origines de son histoire d'amour avec le français.
C'est tout à fait simple. Mes parents étaient des boursiers en France dans les années 20-30. Ils se sont même rencontrés là. Et donc, ils étaient vraiment des francophiles de premier rang. Quand j'étais petit, on m'a poussé à apprendre les langues. Ma première langue étrangère, naturellement, c'était le français, que je n'aimais pas à l'époque. Mais les parents étaient forts, autoritaires. J'ai dû apprendre. Ce que je leur suis très reconnaissant, parce que c'est seulement après que j'ai découvert les vrais trésors de la culture française. Oui.
Vous avez traduit beaucoup d'auteurs français, et notamment vous avez découvert et fait connaître des auteurs qui sont moins connus peut-être. Comment est-ce que vous les avez découverts et qui sont-ils ?
Quelques-uns, oui, quelques-uns, c'est ou bien mon beau-père, Patochka, qui les a découverts ou recommandés. C'est par exemple Raymond Rieu, que j'adore beaucoup, et me semble, c'est dommage qu'il n'ait pas assez connu en France, parce que c'est un auteur, il est à la limite de la science et de la philosophie. Il était un scientifique aussi. Et à mon avis, c'est la plus belle manière de comprendre la philosophie moderne pour quelqu'un qui n'est pas philosophe. Par exemple, c'est mon ami Zdeněk Pins, qui était là, qui a découvert, à la suite de Patočka, Fils de Coulanges. C'est un livre qui est presque 150 années déjà de la première parution, mais il est maintenant, il paraît, il est traduit. C'est aussi pour moi un auteur important.
Et pourquoi pensez-vous que ces auteurs ont été un petit peu laissés de côté, par exemple en France ?
Quant à Rieu, il n'était pas membre d'aucune école idéologique. Quand je l'ai traduit, on a eu une correspondance, il était un homme très vieux déjà. Il s'est plaint qu'il n'est pas percé parce qu'il n'est pas membre d'aucune... Il n'était ni marxiste, ni existentialiste, ni je ne sais quoi.
Ce qui était difficile dans une France, finalement, qui a toujours été très idéologisée au niveau des intellectuels.
Oui, oui. Le milieu intellectuel, en particulier parisien, était pas mal idéologisé. Oui.
Juste pour terminer, vous avez une grande activité de traduction, puisqu'on est sur ces questions de langue, justement. Qu'est-ce que pour vous la traduction? On dit parfois que traduire, c'est trahir. Alors, comment est-ce que vous travaillez, vous en particulier?
Vous savez, alors maintenant, je n'ai plus de temps pour traduire. C'était le privilège des temps communistes. On revenait de travail l'après-midi, et après on a eu le temps libre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, alors, la traduction, c'est un moyen, à mon avis, excellent d'apprendre la langue de laquelle on traduit en même temps que sa propre langue. Quand nos grands-parents ou nos ancêtres, il y a 200 ans, ont voulu reconstruire ou revivifier la langue tchèque, ils ont tous fait des traductions. Nous avons, je crois, 8 ou 9 traductions de Shakespeare du 19e siècle. Parce que tous les Tchèques ont voulu montrer que le tchèque est une langue capable d'exprimer la même chose. C'est pourquoi nous l'avons introduit à l'école. Nos étudiants du premier cycle ont tous à traduire un petit livre.
Le 28 février dernier, s'est ouvert un nouveau lieu de culture à Prague, dans le quartier de Vršovice. C'est un ancien cinéma transformé en salle de concert qui espère attirer rapidement de nombreux groupes à leur fin. Lundi 23 mars, c'est le groupe français L'Herbe Folle de Toulouse qui a ainsi fait ses premiers pas à Prague sur cette nouvelle scène. Johan, le jeune nouveau propriétaire australien du bar Pilote, nous présente son projet avant de laisser le micro aux musiciens de L'Herbe Folle qui terminaient à Prague leur tournée centre-européen.
En direct du 12+1 de la rue des Semelles et en avant-première intercommunale, vous avez aimé André Verschuren, ACDC et Michel Thor. Vous allez adorer L'Herbe Folle.
Johan, le jeune nouveau propriétaire australien du bar Pilote, nous présente son projet avant de laisser le micro aux musiciens de L'Herbe Folle qui terminaient à Prague leur tournée centre-européenne.
Le bâtiment est vieux, c'est un des plus vieux cinémas à Prague. Il date de 1933, je l'ai simplement un peu reconstruit et j'aimerais donner quelque chose à la communauté. Il ne s'agit pas d'une question d'argent, j'aimerais soutenir les groupes. C'est ce que je veux offrir, un bon programme rock. Éventuellement, j'aimerais aussi revenir au cinéma et projeter des films une ou deux soirées par semaine. Depuis que je vis à Prague, j'ai beaucoup vécu à Prague 10 et j'ai vu qu'il n'y avait rien ici pour la communauté, que tout est centralisé autour de Prague 1 et Prague 2. J'ai trouvé ça honteux et c'est pourquoi je voudrais garder ici des prix abordables pour que les gens puissent venir et profiter de la musique.
Le bar Pilote doit encore se faire connaître pour attirer une nouvelle clientèle. À cet effet, il travaille en collaboration avec le club Mline, actuellement en reconstruction, qui peut donc programmer certains groupes dans cette nouvelle enceinte musicale. Pilote a ainsi déjà offert 3 concerts, avec un groupe britannique pour l'inauguration du lieu, un groupe tchèque et dernièrement un groupe français, L'Herbe Folle. Originaire de Carcassonne et installé à Toulouse, L'Herbe Folle est un groupe composé de 4 musiciens, un guitariste, un contrebassiste, un saxophoniste et un batteur, mais on devrait plutôt dire une, puisque c'est la jeune femme du groupe qui manie les baguettes. Elle chante également et gratte un ukulélé. Les garçons du groupe savent aussi varier les plaisirs, passant de la basse à la contrebasse, de la guitare à l'accordéon et du saxophone à la flûte ou aux percussions. Clémentine et Florent de L'Herbe Folle.
Il y a un aspect assez acoustique, la base c'est plutôt chanson française, donc avec des influences acoustiques un peu donc du jazz, des musiques des Balkans, musique klezmer, et puis il y a un côté un peu plus rock'n'roll, avec tout ce que ça comporte, éventuellement un peu électro, drum and bass ou autre, mais toujours avec un côté acoustique, avec des instruments. Et après c'est un gros mélange de tout ça, de toutes ces influences qu'on peut récolter un peu partout et qu'on adapte selon les textes et selon les chansons, comment on a envie de raconter tel ou tel texte ou telle histoire, on mélange toutes ces musiques, toutes ces influences.
Vous mélangez aussi les langues puisque j'ai cru entendre du français, de l'anglais, de l'occitan si je ne me trompe pas à un moment, et une langue slave, laquelle ?
C'est du polonais en fait. Moi j'ai des petites bases de polonais donc... On s'est dit un jour, on était au coin du feu à Avignon, on s'est dit tiens, on pourrait faire une chanson, un tango polonais. Moi, je connaissais quelques mots, donc on a fait la chanson en polonais.
La prochaine fois, vous pouvez faire une chanson en tchèque?
Ben oui, on va essayer.
Vous jouez une musique où on entend beaucoup d'influences balkaniques, j'allais dire même aussi centre-européennes. En même temps, ici en République tchèque, je ne sais pas si c'est le cas en Pologne ou dans d'autres pays centre-européens, mais c'est pas forcément une musique qui est très présente. Est-ce que ça vous surprend?
Non, parce que par exemple, nous, en France, bon, là, il y a une espèce de retour de la langue, enfin, de l'occitan ou des traditionnalismes, du basque, des bretons, tout ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas étonnant parce que les gens, je pense que quand on est dans un pays, on cherche à aller ailleurs quelque part, enfin je sais pas, il me semble quoi, j'ai l'impression qu'on cherche un peu la différence.
Soit aller ailleurs, soit retrouver ses racines des fois. Enfin, en France, c'est vrai qu'il y a un gros mouvement un peu régionaliste, les gens reviennent vers l'occitan, par exemple, enfin, nous on est dans le sud donc c'est ce qu'on voit le plus.
Je pense qu'il y a l'influence du rock'n'roll aussi, des musiques électroniques. Enfin, tout ce qui est musique actuelle qui intéresse les gens. J'imagine que peut-être en Europe centrale, il y a eu une espèce de période de prohibition, plus ou moins, où la culture était peut-être un peu diminuée, on va dire. Je sais pas, hein, c'est ce que j'imagine. Et du coup, peut-être les gens s'y intéressent un peu plus. En tout cas, nous, voilà, nous, on n'est pas du tout ni des Balkans ni d'Europe de l'Est, et nous, on s'intéresse à cette musique-là. Donc, comme on peut s'intéresser à la musique africaine. Je pense qu'on est toujours attiré par ce qui est différent et c'est bien.
Zawsze mówią, że jestem zła, ale ja wiem, to gówno prawda. Ale mówią, że jestem zła, ale ja wiem, to gówno prawda. Kiedy szukam moje serce, nie pamiętam, już nie wiem gdzie jest. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, kocham ciebie, albo nie.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé par la section française de Radio Prague et nous appelons à l'écoute tous ceux qui s'intéressent à l'économie. Voici sur la demande de nos auditeurs la rediffusion de notre rubrique économique.
Économie, commerce.
Ancien patron et fondateur du Feu Prague Tribune, un magazine d'information économique bilingue publié de mars 1993 à décembre 2005, Philippe Riboton est aujourd'hui le patron de HP Partners, une société de chasseurs de têtes centrée sur les marchés centre-européens. À ce titre, il apparaît comme un fin connaisseur du marché du travail en République tchèque. Nous lui avons demandé son opinion sur l'évolution de ce marché et les conséquences probables de la crise économique en République tchèque.
Vous êtes un observateur privilégié ici sur le marché du travail en République tchèque. Avant d'en venir aux effets de la crise, je vais vous demander un peu quelles sont les spécificités de ce marché du travail tchèque selon vous.
La première observation, mais qui va changer très bientôt et qui est en train de changer, c'est que ça a été un marché de plein emploi. Pendant les 15 dernières années, on n'a jamais véritablement connu de chômage en République tchèque. Le chômage à 2-3% était un chômage structurel qui était indépendant du contexte économique. Donc je crois que ça c'est la première observation, c'est-à-dire que ça a été un marché de plein emploi, et encore on va donc en parler, c'est appelé à changer dans les mois et les années qui viennent. La deuxième observation, c'est que je crois qu'il faut différencier Prague du reste de la République tchèque. On peut difficilement parler du marché tchèque, on peut parler du marché pragois, on peut parler du marché de Brno ou de villes spécifiques, mais il n'y a pas, j'allais dire, véritablement de marché tchèque de surcroît, parce que Prague a été pendant très longtemps un marché extrêmement compétitif, dans lequel beaucoup d'entreprises affluaient pour implanter des filiales, des bureaux, ou des plus récemment, comme on l'a vu, des ce qu'on appelle des centres de services partagés, qui ont créé une demande des entreprises complètement, si vous voulez, disproportionnée par rapport à ce que serait un marché normal pour une ville de cette taille et de ce volume de population. C'est un lien pour légèrement anticiper sur votre prochaine question sans doute, pour dire que je crois que tout ça est appelé à changer et que Prague et globalement la République tchèque vont donner l'image d'un marché de l'emploi plus normal, entre guillemets.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu des effets de la crise sur le marché du travail ici en République tchèque ?
Alors, j'aime bien le terme de crise. Oui, tout le monde parle de la crise. Alors, nous travaillons sur le marché des cadres. Donc, je peux vous parler de ce que je connais le mieux, qui est vraiment le marché des cadres. Je peux pas tellement vous parler du marché, entre guillemets, de l'emploi au sens large du terme, puisque c'est pas là que nous inscrivons. Le marché des cadres, à l'identique, à mon avis, du reste du marché, je pense, est en train de découvrir le chômage. Donc, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Pour la première fois, des cadres expérimentés dans tous les secteurs, financiers, marketing, commercial, production, achat, découvrent la fragilité du système sur lequel ils se reposaient, puisqu'aujourd'hui les entreprises ont plutôt tendance à, comment on dit, réduire la voilure, c'est-à-dire à réduire leur exposition au marché, soit de par le fait qu'elles anticipent une décélération, voire une récession, soit parce qu'elles font face d'ores et déjà sur certains marchés spécifiques qu'on connaît bien, le marché de la construction de l'immobilier, le marché de l'automobile, des récessions qui sont déjà tout à fait effectives et qui les obligent à modifier en fait la taille de leurs opérations et la taille de leurs entreprises. Et de facto, dans le cadre de nombreux projets de réorganisation, un certain nombre de cadres se découvrent à la recherche d'un travail, ce qu'ils n'avaient quasiment jamais fait. Parce que pendant les 15 dernières années, ils avaient été sollicités d'un poste à un autre, d'une entreprise à une autre. Et aujourd'hui, ils découvrent donc que rechercher un emploi, ça prend du temps, que c'est difficile, que les opportunités se font plus rares, et que les entreprises se font plus difficiles.
Je pense aussi aux jeunes diplômés ici. Un jeune diplômé tchèque trouve facilement du travail ou trouvait facilement du travail. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être eux qui vont être aussi les plus directement touchés ?
Je pense qu'ils seront définitivement touchés. Il est clair que les jeunes diplômés, jusqu'à il y a encore pas longtemps, avaient été à peine sortis de l'université, que déjà ils avaient plusieurs offres d'emploi. Oui, il est évident, je pense qu'ils vont être touchés. En revanche, je crois que pour les jeunes diplômés, comme pour les cadres de direction, et comme pour les employés de manière générale, je crois que on va pouvoir faire la différence entre les gens qui vont véritablement se battre, les gens qui vont véritablement vouloir montrer qu'ils veulent apprendre, qu'ils veulent se développer, et puis les gens qui vivaient, comme ça a été pendant longtemps le cas, sur une espèce de crête, de vague montante, porteuse, et qui aujourd'hui s'arrête. Je crois qu'on va tout simplement, et sans pessimisme aucun, découvrir un marché qui sera très comparable au marché qu'on connaît en Europe de l'Ouest, comparable à n'importe quel autre.
Est-ce que vous regardez ce que les gouvernements en Europe centrale prévoient de faire, quel type de mesures ils prévoient de prendre pour essayer d'empêcher l'augmentation du chômage? Quelles sont ces mesures et à votre avis, sont-elles bonnes?
Écoutez, je regarde de plus près ce que font, ce que disent, plus qu'ils ne font d'ailleurs, les gouvernements tchèques ou slovaques. Je crois qu'il y a, de la part des gouvernements et des politiques, un manque assez cruel et évident de prospective par rapport à l'impact de la crise qui les touche. On le voit à travers les discussions sur les projections de taux de croissance pour 2009, par exemple. On le voit dans l'impréparation totale des gouvernements au flot de demandeurs d'emploi qui va arriver. Je crois qu'on voit qu'ils sont assez démunis par rapport à la situation, qu'ils se rendent compte, mais ils l'avouent pas encore véritablement, que la dépendance à certains secteurs industriels, je pense à l'automobile en particulier, qui est là en République tchèque, mais qui est encore plus saillant en Slovaquie, dans ce qu'il représente d'emplois directs, mais aussi d'emplois indirects. De la même manière, ces pays sont extrêmement dépendants des investisseurs internationaux et des investisseurs étrangers, pour la simple et bonne raison qu'ils ont vendu la plupart des entreprises nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il serait intéressant d'arriver à estimer le pourcentage de l'économie tchèque ou slovaque aux mains des investisseurs internationaux, qui, à travers à la fois des sociétés qui ont été privatisées dans les années 90 ou à travers des greenfields, c'est-à-dire des sociétés qui sont implantées et développées dans cette région, on voit que les gouvernements, donc les politiques, sont très démunis parce qu'en fait ils ont très peu de prise sur la situation économique, ils ont très peu de prise sur l'économie qui s'est globalisée, ils ont plus de prix sur les entreprises qui ont été privatisées ou vendues. Et de fait, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est payer, s'ils le peuvent, pour l'ensemble des gens qui vont s'inscrire dans les caisses d'allocation chômage.
L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de nous écouter retrouveront toutes nos émissions sur www.radio.cz/fr.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on